Donc on doit anticiper sur le plan opérationnel, imaginer des nouveaux modes d'action pour toujours avoir l'ascendant sur notre adversaire, quel qu'il soit. Dans le cadre de l'engagement majeur et de la haute intensité, on doit se préparer vraiment à évoluer face à des adversaires finalement supérieurs sur le plan numérique et sur le plan technologique, dans des espaces complètement saturés aussi de technologie. Et donc, voilà, nous, c'est ça mon fonds de commerce aujourd'hui, c'est je réfléchis avec les chefs de corps, avec l'armée de terre, c'est comment demain, comme dit le CEMAT, je reste l'éclaireur de l'armée de terre, comme dit le CEMAC, je reste le défricheur des armées.
Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes à Pau avec le général commandant les forces spéciales de l'armée de terre. Les hommes et les femmes qui les composent sont régulièrement déployés sur les théâtres d'opérations et représentent aujourd'hui le plus gros des effectifs du commandement des opérations spéciales. Avec son chef, nous reviendrons sur la place du COMFST dans les missions attribuées au COS, notamment dans la perspective d'affrontements de haute intensité. C'est aussi l'occasion de revenir sur le recrutement, la formation et la volonté de fournir en permanence un outil de pointe adapté aux conflits d'aujourd'hui, tout en étant prêt à ceux de demain. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Pau et plus particulièrement à l'état-major du commandement des forces spéciales Terre avec son chef, mon général. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour monsieur, donc je suis le général Guillaume Le Segretin. Je suis arrivé à Pau dans ses fonctions il y a maintenant 5 mois et il y a un an, j'étais adjoint dans cette même boutique.
Alors, quel est votre parcours, mon général ?
Alors, moi, j'ai un parcours varié, mais quand même très marqué force spéciale, puisque après courtes années comme lieutenant chez les chasseurs alpins, où j'ai eu la joie de passer toutes mes qualifications haute montagne. Et à ce titre, j'ai basculé au 13e RDP, où j'ai fait un parcours après complet de chef d'équipe, de capitaine commandant, de chef BOI et de chef de corps, avec un passage à la clé entre le 13e RDP à Dieuze et le 13e RDP à Souges, près de Bordeaux. Donc au moins un parcours force spéciale c'est assez complet, des opérations. Et autour de cela, un certain nombre d'autres expériences au sein de l'écosystème Terre, donc au sein de l'armée de Terre à 2 reprises, dans des postes là aussi différents, au sein de l'écosystème renseignement, avec des passages dans plusieurs services de renseignement. Et en particulier, j'ai passé il y a peu de temps, en fait, 3 ans, comme chef du bureau réservé de la ministre des Armées, Florence Parly.
Comment on devient le chef du commandement des forces spéciales Terre ? Est-ce qu'il y a un profil particulier, un parcours particulier ? Est-ce qu'il faut des qualités particulières ?
Alors, je ne sais pas s'il faut un profil particulier, parce que sinon je vous donnerai mon profil personnel. Donc, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que si je prends un peu de recul, oui, je pense qu'il faut avoir, entre guillemets, l'idéal et d'avoir coché un certain nombre de fonctions au préalable. Et plus vous les avez cochées, plus finalement vous êtes légitime, mais surtout vous êtes à la juste place. Mais comme tout grand chef militaire, si je vois mes grands chefs militaires, quand on regarde le CEMA, le CEMAT, eh bien, il y a quand même un peu des cases à cocher au fil du temps pour être prêt. Mon sentiment, même si ce n'est pas toujours le cas, parce qu'on fait aussi avec la ressource dont on dispose, mais il me semble qu'avoir un parcours déjà personnel au sein des unités des forces spéciales, alors pour le COMFST au sein du 4e RHFS, au sein du 1er PMA, au sein du 13e RDP en particulier, eh bien, vous arme pour ensuite avoir des fonctions supérieures. Donc, comme tout officier, vous grandissez dans un système. Moi, c'était au 13e RDP, mais mon prédécesseur que vous connaissez, c'était au 1er PMA. Et au bout d'un moment, vous avez d'autres connaissances à acquérir. C'est ce que je disais. Donc, ce profil type, si je le dessinais, ça serait un parcours dans les unités des forces spéciales, quelles qu'elles soient. Je vous ai dit, entre autres, les 3 unités... des forces spéciales Terre, une compréhension de notre environnement, donc un parcours, pourquoi pas, ou en tout cas des passages au sein de certaines entités, la direction du renseignement militaire, d'autres services de renseignement éventuellement, pourquoi pas la DGSE, pourquoi pas bien évidemment le COS, le commandement des opérations spéciales, et puis plus largement, il faut vivre dans l'écosystème armé. Donc, il faut comprendre l'armée de terre, son armée, la mère nourricière, et qui va vous fournir les moyens, qui va vous les moyens RH, les moyens financiers, les moyens en équipement, les moyens en tout genre, avec qui vous allez travailler sur la doctrine, sur l'emploi. Et donc voilà. Donc c'est un peu un fil conducteur. Comme tout le monde, vous êtes force spéciale, vous grandissez dedans, mais il faut partir à gauche, à droite, faire si possible un peu de politico-militaire, si on peut un peu de capacitaire. Bref, il faut être polyvalent. Mais ça, c'est le propre, normalement, de tous les généraux aujourd'hui, c'est qu'il faut être polyvalent. Il faut être généraliste avec, au départ, une espèce de colonne vertébrale liée à un métier. Ben, pour être comme FST, il faut, avoir pratiqué les forces spéciales et les opérations spéciales.
Qu'est-ce qu'on y trouve dans ces forces spéciales terre ?
Alors si, en termes déjà d'organisation, trois régiments, je les ai cités préalablement, complémentaires, il n'y a pas de redondance, on ne duplique pas, il y a des petites intersections, mais vous avez donc un régiment, le 1er PIMA, avec une empreinte forte sur l'action spéciale. Ces dernières années, c'est principalement, mais pas exclusivement, le contre-terrorisme, comme on a pu le voir pendant une vingtaine d'années, aussi bien au Mali et en Afghanistan. C'est un 13e RDP que j'aurais pu citer avant dans la logique de l'opération, c'est-à-dire c'est le renseignement stratégique, unique en son genre. Et aujourd'hui, ces missions de fond reviennent au goût du jour avec la haute intensité, l'hypothèse de l'engagement majeur, etc. C'était son fond de commerce, aller au-delà des lignes ennemies. Le 4e RHFS, notre régiment de l'aérocombat propre aux forces spéciales. Et puis, autour de cela, eh bien, vous avez... donc tout ça, l'ensemble représente 2600 à peu près personnes. Mais vous avez autour de cela des spécificités. Nous avons une compagnie de commandement et de soutien, de commandement et de transmission. Et cette compagnie va nous donner aussi toute l'autonomie dont on a besoin, parce que ça représente un certain volume d'opérateurs. Et quand vous regardez les FST, eh bien notre particularité, c'est que en fait, on a une forme d'autonomie. On pourrait, entre guillemets, s'autosuffire. En dehors des moyens avions, on a les hélicoptères, on a le renseignement, on a le C2, c'est-à-dire toute la partie commandement, on a les commandos action spéciale, et en plus, on a notre académie, l'Académie des Forces Spéciales, qui est stationnée à Pau, qui vient en complément de tous nos centres de formation dans chacun des régiments. Donc il y a une forme d'autonomie, c'est ça un peu notre organisation et puis notre métier d'aujourd'hui.
C'est quoi justement la place de ces FST au sein du COS ?
Alors leur place déjà, c'est c'est qu'il y a une bonne complémentarité. Déjà, vous voyez, quand on regarde la brigade des forces spéciales air, eh bien, ils ont, eux, les moyens aériens lourds. Ils ont un certain nombre d'hélicoptères. Nous les avons aujourd'hui. Nous travaillons à une meilleure interopérabilité entre eux et nous. Ensuite, il y a des commandos. Il y a des commandos dans chacune des trois composantes air, mer et terre. L'objectif, là aussi, c'est d'avoir une interopérabilité, c'est-à-dire de pouvoir conduire des opérations ensemble. Donc certains domaines, on voit une interopérabilité. D'autres domaines, je vous le disais, le renseignement unique au sein des forces spéciales, c'est au 13e RDP. Les hélicoptères, majoritairement au sein des forces spéciales terre. Et nous, notre place finalement dedans, c'est qu'on apporte une capacité très complète. Quand certains sont entre 600, 700 ou 900 et nous, parfois, trois fois plus, bien évidemment, on apporte la masse. On apporte la masse et en l'occurrence, une fois que vous avez la masse, ça veut dire que dans les opérations partout, vous apportez souvent 80% de tout. Hein, des hommes, des moyens, du commandement, du renseignement, tout repose. Donc vous êtes le maillon, entre guillemets, fort. Ça ne veut pas dire que vous êtes meilleur que le voisin, mais vous êtes le maillon fort, parce que finalement, rapidement, quand vous déployez en opération, si ce n'est quand ce sont des petits détachements, on ne sait pas faire sans, le COS ne peut pas faire sans les FST.
Oui, c'était ma question, justement, comment se fait le choix des unités en mission? Alors, il y a certainement le milieu, mais effectivement, la masse apportée est aussi déterminante sur l'action.
Bon, alors ça, moi, je faudrait plutôt demander au patron du COS, parce que je ne sais pas exactement, précisément, comment on procède. Ce qui est sûr, c'est que nous, je veux dire, si on parle de renseignement, on est les seuls. Si on parle d'hélicoptères, eh ben, on a quand même beaucoup, plusieurs dizaines d'hélicoptères. Donc, c'est quand même... on peut répondre à toutes les situations. Chacun apporte des savoir-faire particuliers. Si on parle à un moment de contre-terrorisme maritime, ce n'est pas notre sujet. Si on parle d'opérations au Sahel, on est en plein cœur des missions des forces spéciales terre. C'est le milieu terrestre, c'est là où c'est notre milieu naturel. Donc nous, on est le milieu terrestre, c'est notre milieu naturel. Donc en général, quand il y a des missions logiquement à tendance ou à priorité renseignement ou terrestre, la logique veut que, même s'il y a un peu, ça vient un peu de partout, bien évidemment, hein, parce qu'on travaille tous ensemble, et je pense on travaille bien tous ensemble, et bien, je vous dis, si demain on doit se déployer sur une opération un peu spéciale, ou ce qu'on appelle aussi des opérations particulières de recherche, bah, c'est des opérations très IMRDP, on ne va pas aller chercher d'autres personnes. Donc ça dépend vraiment de la mission. Et après, le COS voit les équilibres, et on en discute, et en général, on débouche sur une copie la plus performante possible.
Mais d'ailleurs, il y a quelques années, en Afghanistan, on a commencé à voir, pour les gens en tout cas de l'extérieur qui arrivaient sur des opérations, vous voyez, pour la première fois, une grande mixité des unités des forces spéciales. On voyait sur le même terrain, au même moment, des commandos de l'air, des commandos marines, des gens des forces spéciales terre. C'était un tournant, l'Afghanistan, pour ça ?
2003, la première TF vraiment interarmisée, on peut dire, hein, pour les forces spéciales. Un déploiement qui surprend un peu au début. J'y étais personnellement, donc je l'ai vécu de l'intérieur. Et c'était très intéressant de voir comment on a construit cet édifice-là. On n'avait pas l'habitude. Donc pour moi, c'est véritablement le tournant de ce qu'on a appelé les TF, les Task Force, ou les GFS, les groupements de forces spéciales, où chacun apporte ce qu'il est en mesure d'apporter, des vraies compétences. Je vais vous dire, à un moment, la compétence des JITAC. Les JITAC, c'était plutôt le CPA-10. Quand il fallait des équipes pour s'infiltrer, renseigner, c'était le 13e RDP, etc. Et après, on a essayé de constituer aussi des équipes mixtes. C'est vraiment à la demande. Aujourd'hui, je pense, il me semble, et je pense que mes deux autres camarades commandeurs de composantes seraient parfaitement d'accord, il n'y a pas de concurrence, il ne me semble pas. Hein. On a chacun des métiers dans lesquels nous sommes compétents ou plus compétents. Le domaine de l'action est partagé, globalement, avec, il me semble, des unités peut-être plus aguerries par leur expérience. Et je pense que les FST, avec le premier PMA, sont parfaitement aguerris. Nous avons les outils pour ça. Nous avons à Pau un centre de tir adapté unique en Europe, créé en 1997 par une intuition d'un adjudant-chef issu du premier PMA et d'un général, et ensuite qui ont réussi à convaincre l'échelon parisien, les autorités parisiennes, de financer ce grand centre complexe de tir adapté, un ensemble fermé, etc., et avec une vraie vision, parce que c'était en 1997. Et il nous a permis pendant 20 ans de nous entraîner au contre-terrorisme. Donc c'était parfaitement ciblé. Donc nous, on a des outils en plus qu'on partage. Hein. Les commandos marines viennent parfois ici, les commandos de l'air, le RAID. Donc voilà, donc nous, c'est peut-être en même temps une de nos forces, c'est que notre mère nourricière, l'armée de terre, nous appuie. Et comme on représente quand même une certaine masse, on peut faire des, entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais des paris sur l'avenir. Aujourd'hui, si je reprends ce centre de tir adapté, le CTA, l'enjeu, c'est de l'adapter au conflit de demain. Donc, avoir la bonne vision. Comment, dans un centre de tir fermé, un complexe de tir, eh bien, on arrive à voir comment on traduit concrètement les entraînements, principalement au tir, Est-ce que c'est la haute intensité? Comment ça peut se traduire par, matériellement par une infrastructure qui nous permet de mieux nous entraîner? Et c'est un peu ça le défi des forces spéciales, c'est d'avoir cette vision sur l'avenir, une vision prospective, pour avoir les moyens en moyens humains, en moyens en équipement, en capacitaire, en infrastructure, pour se mettre dans les meilleures conditions pour les 10-20 années à venir.
Alors là, vous abordez plusieurs questions que je souhaitais vous poser, mon général, et effectivement, notamment cet avenir. Quelles sont vos priorités pour la suite, pour le COM-FST, sur l'entraînement, le capacitaire?
Alors nous, déjà, la première priorité, c'est de répondre aux besoins du CEMA. Donc finalement, on s'inscrit dans la vision stratégique de nos chefs, du CEMA, la revue stratégique du président de la République qui vient d'être présentée. Et il faut qu'on soit complètement intégré à tout ça. C'est-à-dire que je ne fixe pas d'objectifs ou de priorités hors sol parce que j'ai envie de faire ça ou ça. Donc déjà, j'ai cette vision stratégique du CEMA, celle du CEMAT, et je m'en nourris. Et après, j'en décline une vision en lien avec, d'un côté, je vous le disais, le COS, qui lui développe aussi une vision propre aux engagements des forces spéciales, et puis à la DRM, une fois de plus, on n'en parle pas souvent, mais la DRM, qui est aussi un de nos employeurs, aujourd'hui qui n'est pas du tout majoritaire, c'est le COS à 80 ou 90%, on peut dire, mais historiquement, la DRM était l'employeur, entre autres, du 13e RDP. À partir de cette vision, moi, ce que je dois faire, c'est mettre à disposition du chef d'état-major des armées, par l'intermédiaire de ses employeurs, le GECOS et éventuellement le DRM, des unités parfaitement aguerries, préparées, aguerries, en mesure de conduire ces opérations. Donc moi, aujourd'hui, mes priorités, c'est d'être en permanence prêt à engager les troupes, les FST, dans les conflits d'aujourd'hui et de demain. Et donc là, il suffit de se reporter à ce qui est écrit dans la vision stratégique du CEMA et du CEMAT. C'est on revient à l'hypothèse de l'engagement majeur, donc à des actions de haute intensité, à ce qu'on appelle et qui est de plus en plus présenté la zone grise militarisée, et puis l'action d'urgence qui reste notre savoir-faire de base. Je dois être déployé demain, dans tel pays pour une évacuation de ressortissants, par exemple, ou pour une libération d'otages. C'est mon fonds de commerce, je sais le faire avec l'ensemble de mes moyens. Pendant 20 ans, je vous dis, on a fait du contre-terrorisme. Aujourd'hui, on conserve ça, mais on s'ouvre sur tous les autres savoir-faire et les modes d'action. Nous, voilà. Donc, on doit anticiper sur le plan opérationnel, imaginer des nouveaux modes d'action pour toujours avoir l'ascendant sur notre adversaire, quel qu'il soit. Dans le cadre de l'engagement majeur et de la haute intensité, on doit se préparer vraiment à évoluer face à des adversaires finalement supérieurs sur le plan numérique et sur le plan technologique, dans des espaces complètement saturés aussi de technologie. Et donc, voilà, nous, c'est ça mon fonds de commerce aujourd'hui, c'est je réfléchis avec les chefs de corps, avec l'armée de terre, c'est comment demain, comme dit le CEMAT, je reste l'éclaireur de l'armée de terre, comme dit le CEMAC, je reste le défricheur des armées. C'est-à-dire, je suis en mesure de m'adapter à toutes les situations. Je vous dis, face, on était encore il n'y a pas longtemps dans un rapport du fort, nous, au faible, l'Afrique. Demain, aujourd'hui, on doit se préparer à être dans un rapport inversé, c'est-à-dire du faible, nous, au fort, avec des adversaires, peut-être, y compris des forces spéciales face à nous, mieux équipés, mieux aguerris, etc. Et derrière ça, si on peut encore le décliner, ça c'est vraiment le concept, hein, on conserve l'ascendant sur l'adversaire, on adapte, je l'ai dit, nos modes d'action, on adapte nos savoir-faire, on adapte nos organisations en permanence, c'est ce qu'on est en train de faire encore, on est en train de changer l'organisation de certaines unités. Si je prends le cas du premier PIMA, c'est tout bête, hein, jusqu'à le peu de temps, on était forcément dans des groupes à 10-12, des stick actions à 10-12. Aujourd'hui, voilà, le premier PIMA s'est organisé pour pouvoir fonctionner aussi, agir aussi en équipe plus réduite. Donc pour cela, il nous faut ce qu'on appelle en jargon un peu technique un repyramidage de nos effectifs, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant on avait des caporaux-chefs, des sous-officiers et des officiers, et bien il nous faut, comme il y a plus d'autonomie dans ces équipes, il nous faut davantage de sous-officiers et un peu moins de militaires du rang, parce que plus d'autonomie, on exige plus de choses qu'eux. Et l'armée de terre, qui agit dans un process plutôt inverse, eh bien nous suit. C'est là où je dis, c'est notre mère nourricière qui nous comprend et qui nous appuie, parce qu'elle nous suit et elle accepte qu'on repyramide, qu'on prenne plus de sous-officiers, etc. Donc tout ça, c'est en même temps des organisations qui doivent évoluer. Et enfin, bah, ça nécessite, dans ces, toujours dans cette adaptation permanente, ce sont nos capacités elles-mêmes.
Alors, vous parliez de haute intensité. On entend beaucoup parler de haute intensité dans l'armée de terre et maintenant dans les armées. Est-ce que les forces spéciales ont leur place dans le combat de haute intensité, dans le rouleau compresseur, dans des chocs frontaux durs, lourds et blindés? Est-ce que l'équipier a encore sa place? Est-ce que les forces spéciales ont leur place dans ce combat-là?
Alors, bien évidemment que oui, parce que les forces spéciales, ce n'est pas que, j'ai dit tout à l'heure, des opérations, des actions d'urgence, ce n'est pas seulement du contre-terrorisme, c'est-à-dire des actions chirurgicales dans un espace limité, sur des délais limités, c'est avant tout des troupes qui éclairent, des troupes qui agissent dans la profondeur des dispositifs adverses. Ce sont des troupes qui ciblent et qui agissent sur des objectifs stratégiques. Et ça, c'était hier comme demain. J'aime bien prendre des exemples au sein du 13e RDP parce que je connais mieux cette organisation. Mais quand le 13e RDP a été installé à Dieuze, face à l'Est, c'était vraiment déjà dans le cadre de la haute intensité. Donc c'est un savoir-faire qui est maîtrisé. C'est-à-dire que le 13e RDP devait s'infiltrer de l'autre côté des frontières de l'Est, devait se laisser dépasser par les troupes de le premier échelon ennemi pour renseigner sur le deuxième échelon. Le deuxième échelon, c'est quoi? Ce sont les postes de commandement. Et en fonction des orientations que prenaient les postes de commandement, on pouvait en déduire l'axe d'effort d'attaque ennemie. Donc ce sont des savoir-faire de base, parfaitement maîtrisés, même 60 ans plus tard. Et les forces spéciales, terre entre autres, mais les forces spéciales en général, dans le cadre d'un conflit de haute intensité, ont toute leur place, parce que de toute manière, derrière les lignes ennemies, sur les objectifs stratégiques, à part les forces spéciales, il n'y a quand même pas grand monde qui peut le faire.
À propos d'aguerrissement et de combat de haute intensité, on a Orion qui arrive bientôt, l'exercice majeur des armées pour 2023. Quelle va être la place? Et on parlait aussi tout à l'heure, vous parliez, mon général, de complémentarité. Est-ce qu'on va retrouver l'ensemble du COS sur cet exercice, et en particulier ce qui vous concerne, les forces spéciales terre?
Alors, sur ce sujet, comme c'est là aussi, c'est du niveau, je ne vais pas faire une passe à l'aile, mais presque, comme c'est du niveau du COS, puis ça va être un engagement du COS, le COS vous répondra mieux que moi sur ses ambitions par rapport à cet exercice. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'entraîne régulièrement. Il y a à peine deux mois, on a fait un exercice avec d'autres, avec des forces conventionnelles, avec la brigade parachutiste et la BAC, donc les hélicoptères de la brigade des hélicoptères de l'armée de terre, et de façon à déjà mieux appréhender le combat force conventionnelle, force spéciale. Donc c'était un peu les prémices déjà de Orion 2 que nous allons jouer, et qui va là encore consister à voir un peu l'interopérabilité de tous. Et Orion 4, ça sera la suite logique. Un grand défi, je pense, aujourd'hui, c'est justement cette interopérabilité. Que les armées sachent bien toutes, forces conventionnelles entre elles, armées de terre, marine, armées de l'air, et bien sûr forces spéciales, puissent interagir, puissent se coordonner, et donc tout le domaine des transmissions et des systèmes d'information constitue selon moi un enjeu majeur. Après, comment on va le faire? On va être, comme d'habitude, peut-être, on va jouer l'action d'entrée en premier pour saisir des points, peut-être dans la profondeur. Voilà. Mais en tous les cas, là encore, Orion 2, Orion 4, Orion 3, après c'est une forme différente, mais 2, 3, 4, on est partie prenante. Et les forces spéciales Terre, de toute manière, c'est notre ADN. On travaille sur ces sujets-là. Depuis longtemps, là, je vous disais, aujourd'hui, ben, l'interopérabilité entre les moyens hélicoptères de l'armée de l'air et nous, des forces spéciales air et forces spéciales terre, c'est un sujet qui n'a pas été finalisé. On est en train de le finaliser pour avoir une meilleure coopération. C'est du bon sens, hein. C'est du bon sens. Et donc là, avec mon camarade de la brigade des forces spéciales air et aussi avec le commandant de la LAT, hein, donc de l'armée de terre, l'aviation légère de l'armée de terre, on est en train de résoudre, c'est demain, ou de finaliser, d'ajuster la place de chacun pour que les engagements soient les plus performants possibles, chacun dans notre ligne d'eau, dans ces engagements.
C'est important pour les forces spéciales aujourd'hui, ça a commencé déjà avec Manticore, on le verra sur Orion, justement d'être toujours intégré dans une manœuvre à minima interarmes, voire interarmées, de ne pas faire ses exercices dans son coin, au même titre qu'on pourrait dire d'une brigade conventionnelle, mais là, de s'intégrer dans quelque chose de plus grand.
Alors, c'est important parce que, déjà, si on prend le côté interarmé des forces spéciales, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas y revenir, mais il faut... on est engagés ensemble, nous, les forces spéciales, dans notre petit écosystème, COS, donc on doit se préparer ensemble. On ne peut pas, avant, normalement, chaque déploiement, on se voit, les chefs de détachement de TF se coordonnent, sont briefés, vont voir les théâtres, etc. Bref, il y a une véritable acculturation. Ça, c'est pour la partie interne force spéciale française, on va dire, hein, sous commandement COS en opération. Et ensuite, bah, quand on commence à évoquer une hypothèse d'engagement majeur, ou même si on l'est, ou la haute intensité, où là, plus personne ne pourra agir tout seul. Et moi, je pense souvent à l'image du rugby. Hein. C'est que rugby, il y a des grands, des petits, des gros, des maigres. Il y en a qui courent vite, il y en a qui poussent fort. Et si on veut gagner un combat, c'est tous ensemble. Donc aujourd'hui, je pense que c'est aussi l'intuition de l'actuel CEMA quand il était CEMAT, qui a évoqué ce retour à l'engagement majeur et à la haute intensité. Voilà, il a osé le dire il y a quelques années et je pense que certains ont rigolé alors qu'il était visionnaire. Tout le monde en parle aujourd'hui et la réalité, on voit bien ce qui se passe sur le flanc est de l'Europe. Potentiellement, en tous les cas, on doit se préparer à ça. Et pour se préparer à ça, on doit travailler tous ensemble en interarmes et en interarmées. Après, voilà, il faut bien savoir coordonner l'ensemble, il faut bien savoir déconflicter parce qu'on est tous complémentaires. Donc ce que nous faisons, force spéciale, personne d'autre peut le faire. Sinon, c'est qu'il y a redondance, c'est qu'il y a trop de moyens. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a plutôt pas assez de moyens et que s'il y avait un engagement de type engagement majeur, comme j'ai pu le lire, comme le disent la commission de la défense, comme le dit même un certain nombre d'observateurs, je ne suis pas sûr qu'on soit finalement très à l'aise. On n'aura pas assez de moyens. Pour le moment, aujourd'hui, on n'est pas assez puissant. On n'a pas assez de ressources. Donc, j'ose espérer que la LPM va être une des réponses. Hein, je ne sais pas s'il faudra une LPM ou plusieurs pour résoudre tous nos problèmes. Mais en tous les cas, on a un défi. On a un défi capacitaire. On a un défi RH. On a un défi pour être présent et répondre vraiment aux choix politiques qui seront faits en cas d'engagement.
Vous venez de l'aborder, mon général, le défi RH. On a parlé de matériel, de capacité. Recruter de l'équipier, est-ce que c'est un vrai défi pour aujourd'hui, pour demain? Parce que c'est quand même quelqu'un de particulier.
Alors moi, en tous les cas, on n'a pas besoin de faire de la communication pour recruter dans les forces spéciales. C'est pas nécessaire. Aujourd'hui, les forces spéciales, c'est connu, c'est reconnu. Peut-être que dans 5 ans, on n'aura pas le même discours. Mais aujourd'hui, c'est pas parce qu'on communique plus qu'on recrute mieux. Et nous, finalement, là encore, nos armées, je vais pas parler à la place de mes camarades des deux autres armées, mais en tout cas, pour l'armée de terre, le travail de recrutement est très bien fait. Et aujourd'hui, un équipier des forces spéciales, quelqu'un qui arrive, qui s'engage, qui est un militaire du rang, je veux dire, le profil est, répond vraiment aux attentes. Après, de toute manière, on peut avoir des tests psychologiques, on peut avoir des tests physiques, on peut avoir tout type de filtre. Seule la formation nous permet de savoir, une formation longue, éprouvante, parce que le métier est éprouvant, c'est pas de la sélection. Le métier est éprouvant, donc au fil du temps, eh bien, on voit bien ceux qui sont en capacité de remplir les missions des forces spéciales. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas, finalement, que vous réussissez pas votre stage au 13e RDP ou au 1er PMA ou au 4e RHFS que vous n'êtes pas un bon militaire. C'est-à-dire que ça nécessite des capacités, des qualités, parfois un peu différentes. Et en l'occurrence, si quelqu'un n'est pas tout à fait adapté aux forces spéciales, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas un excellent militaire. Donc, nous, en tous les cas, on a pas de problème de recrutement. Nous, on fait du qualitatif. Et plus on arrive à cibler le recruter, moins il y a d'échecs. Et aujourd'hui, notre défi, c'est, je vous dis une nouvelle fois, c'est la fidélisation. On n'a pas tellement de sujets là-dessus. Mais c'est toute personne qui arrive chez nous, hein, qu'elle arrive d'un autre régiment ou qu'elle arrive du milieu civil, en initial, c'est si elle rate chez nous, qu'on ne perde pas cette personne. Parce que comme on l'a déjà beaucoup sélectionné, c'est une personne de qualité qu'on doit pouvoir reverser, entre guillemets, au sein de l'armée de terre. Et ça fera des excellents soldats au sein d'autres unités.
Quelle qualité il doit avoir ? Quelle tête il a l'équipier des forces spéciales Terre ?
Quelle tête ? Moi, je vous dirais, il a deux choses à avoir, c'est la tête et les jambes. Hein ? Donc, c'est une vieille émission de télé. Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on cherche des profils en fait, équilibrés, des garçons équilibrés, des filles équilibrées. Parce que vraiment, vu le spectre des missions, on a besoin de tout le monde. Et ensuite, voilà, on va rechercher quelqu'un d'équilibré, d'humble, de rustique. Et tout le reste, finalement, c'est de la formation. Donc, le super athlète qui veut aller au JO, il ne sera peut-être pas pris chez nous. On dit souvent profil de chat maigre, voilà, un profil bien taillé, etc. Mais c'est pas ça le sujet. Parce que dans nos métiers difficiles, quelquefois, c'est la force mentale qui prime. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. On essaye d'optimiser cette force mentale, ce potentiel mental de nos soldats par des concepts qu'on est en train, plus que des concepts, hein, des techniques qu'on est en train de développer en interne, pour faire de nos soldats des soldats aguerris, endurcis, forts mentalement, avec une bonne capacité à résister à l'épreuve, et puis avec une bonne mémoire, et puis des capacités à minima intellectuelles, parce que un soldat qui est développé par petite équipe aux quatre coins du monde, il doit être autonome, donc plus vous êtes autonome, plus vous devez savoir faire beaucoup de choses.
Mon général, on va reprendre la vie du militaire une fois qu'il ne l'est plus. On retrouve un certain nombre d'entre eux, notamment des forces spéciales et sur les réseaux sociaux, sur des chaînes YouTube qui communiquent de différentes manières et qui abordent différents sujets. Quelle est votre vision, vous, en tant que chef des forces spéciales Terre et en plus pour quelqu'un qui est passé par la DRSD, donc qui a une vision aussi fine et précise sur ses réseaux sociaux et sur son utilisation et sa dangerosité, en tout cas ses limites. Comment vous voyez tout ça ?
Un, je le regrette. Deux, c'est un peu fort ce que je veux dire, mais je vais quand même le dire, je le condamne. Et toutes ces personnes de chez nous, qui se revendiquent de chez nous, en tout cas je parle pour les forces spéciales Terre, et qui agissent ainsi, ne correspondent pas du tout à notre état d'esprit. L'état d'esprit d'un équipier des forces spéciales, c'est tout sauf ça. C'est-à-dire que c'est plutôt, je le disais tout à l'heure, c'est la discrétion et l'humilité. Donc, voilà, quel que soit le grade, parce que parfois ça intervient à de très haut niveau, eh bien, je le regrette et quand je peux leur dire, je leur dis. Aujourd'hui, le problème, c'est que voilà, ces personnes agissent, c'est dans l'air du temps, c'est la mode, elles sont sollicitées. Voilà, mais une fois de plus, je le regrette. Et si nous pouvions agir fermement, eh bien, on le ferait. Et donc, j'ai bon espoir qu'on arrive à stopper ce que j'appelle des dérives. Voilà, c'est pas la marque de fabrique des forces spéciales. Je comprends parfois que certains aient envie de raconter leur vie, leurs souvenirs, mais quand on regarde, c'est pas forcément, c'est pas général ce que je vais dire. Je reste prudent, mais c'est pas forcément ceux qui en ont fait le plus qui en parlent. Donc voilà, donc non, vraiment, je le regrette. Je les invite. S'ils lisent ou écoutent ces propos, voilà, de revenir entre guillemets à la raison. Alors, ça fait un peu donneur de leçons et c'est pas du tout ce que je veux faire, mais je le regrette parce que ça nous fait du tort. Hein, quand on n'a pas besoin de publicité, c'est voilà, restons discrets. Voilà, restons discrets.
Quel est le plus beau moment de votre carrière, mon général ?
J'allais dire en ce moment avec vous,
mais c'est gentil, ça serait.
Non, le plus beau moment d'une carrière pour un chef militaire, c'est d'être avec ses hommes et de commander ses hommes, où que ce soit, quelles que soient les conditions. Et donc moi, c'était une joie de revenir. Je vous dis, j'étais il y a 2 ans, en 2020, je suis arrivé ici comme adjoint des forces spéciales terre, pour différentes raisons d'organisation militaire, j'imagine. On m'a muté au bout d'un an. Et un an après, on m'a remuté ici. Et je suis donc ravi de revenir cœur de domaine auprès des hommes que je connais, avec qui je suis parti en opération, donc commander des hommes des forces spéciales qui sont déployés aux quatre coins du monde. Quand on peut aller les voir, quand on peut les commander au combat, ben c'est notre ADN, c'est, mais ça, je dirais, tous les chefs militaires normalement pensent ça. Donc le meilleur moment militaire, c'est celui du commandement de ces hommes.
Si vous pouviez retourner dans le temps, en général, et en tant que général, revoir l'élève officier que vous étiez, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil, avec votre expérience et votre vision aujourd'hui ?
Moi, je lui dirais que dans la vie, il faut tout oser. Voilà, il faut. Je le dis sur beaucoup de domaines. Il faut savoir. Alors, je trouve qu'on a plusieurs devises ici. Hein, ce sont les devises de nos régiments. Je vais en citer deux. C'est qui ose gagne. Voilà. Et ça, je pense que ça peut résumer presque une ligne de vie militaire. Et la deuxième, celle du 13e RDP, la première, donc première PMA. Et c'est au-delà du possible. Et je trouve que voilà, c'est le conseil que je dirais, que je donnerais, pardon, à ces jeunes militaires. Et c'est celui. Et je leur donne ce conseil-là, parce que j'en connais un certain nombre, hein, génération de mes enfants. Hein, et je leur dis, mais surtout. C'est une expérience incroyable. Le milieu militaire est un milieu absolument incroyable parce que, là encore, une petite parenthèse, mais c'est quand même un milieu où il n'y a pas de sens de rentabilité économique. Donc l'acte est gratuit. Le don de soi est total jusqu'au don de sa vie. Donc il n'y a pas de plus beau métier que servir une cause où vous pouvez aller jusqu'au don de votre vie pour une bonne cause. Et avec. Et là, vous adhérez à un système, vous adhérez à un chef, vous adhérez quand vous êtes subordonné, etc. Et vous y allez ensemble, c'est une très forte cohésion. Et je dis souvent, quand les hommes partent au combat, je leur dis, regardez votre voisin, c'est votre compagnon de guerre. Ce n'est pas forcément votre meilleur ami, mais c'est peut-être celui qui vous sauvera la vie. Donc, voilà, soyons forts et soyons souvent, mais soyons unis.
Merci beaucoup, mon général.
Je vous remercie.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochaines diffusions. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en version papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite pour un prochain épisode.